Gloire à Dieu. Nous continuons notre série sur le livre d'Ecclésiaste, dans le cas de Béréen l'explorateur. Et nous en sommes au chapitre 3. Et nous avons dit la fois passée que le livre d'Ecclésiaste nous pousse à la réflexion sur notre existence terrestre pour en discerner la vanité et nous conduire à nous attacher à l'espérance céleste, nous attacher à Dieu. Voilà, le livre d'Ecclésiaste agit pas comme les autres livres du Nouveau Testament, entre autres, qui nous présente clairement le ciel pour nous attirer vers le ciel. Le livre d'Ecclésiaste nous présente la vanité de la terre pour nous dire ce que tu peux penser gagner sur terre n'est que vanité, afin de nous pousser à aller plutôt vers Dieu, voilà, pour recevoir le vrai bonheur, la vraie tranquillité, la vraie puissance, la vraie gloire. Donc nous en sommes au chapitre 3. Nous allons commencer la lecture.
Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix.
Voilà, donc c'est le titre que nous avons donné aujourd'hui. Hein, ce titre, chaque chose a un temps pour chaque chose. Voilà, parce que c'est ça qui résume un peu le chapitre 3, même s'il y a d'autres éléments que nous verrons, mais il faut bien donner un titre. Et dans cette partie de un temps pour chaque chose, il ne faut pas qu'il y ait une méprise, parce que donc je commence directement par ça. Ça ne veut pas dire que Dieu autorise que l'homme haïsse. Ça ne veut pas dire que Dieu autorise que l'homme tue. Il n'autorise pas tout cela. Mais on nous montre les séquences de la vie humaine, de la vie terrestre. Il y a toutes ces séquences dans la vie terrestre. Il y a un temps pour, il y a des séquences de meurtre, des séquences de guérison, des séquences de construction, de destruction. On plante, on arrache. Il y a toutes ces séquences dans la vie de l'homme sur terre. Et si il nous est dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout, c'est juste pour nous dire que Dieu maîtrise tout ça. C'est pas comme si c'était des surprises pour Dieu. C'est quand même Dieu qui permet tout ça. C'est pour nous pousser à la confiance en Dieu, pour nous pousser à dire, à réaliser, à savoir que Dieu est au contrôle. C'est pourquoi il y a ce langage, il y a un temps pour tout. Mais ça ne veut pas dire que Dieu autorise le meurtre. Ça ne veut pas dire que Dieu autorise qu'on déteste quelqu'un, pas du tout. C'est juste pour dire, mais ne sois pas surpris, mon ami. Sur terre, il y aura des séquences de meurtre. Sur terre, il y aura des séquences de haine. Sur terre, il y aura des séquences de détestation. Il y a tout ça. Voilà. Parce que certains sont déstabilisés par ça aussi. Qui sont des chrétiens, qui vont être déstabilisés par des séquences d'accidents, d'incendies où des enfants meurent. Qui va se réjouir du 11 septembre quand nous voyons des gens sauter de l'immeuble pour échapper aux flammes. Ça ne réjouit personne. Mais dans cette douleur-là, il nous est dit ici, réalisez que Dieu est au contrôle. Voilà. Tant de guerres, des innocents qui meurent pendant ces guerres, mais Dieu est au contrôle. Voilà, il y a un temps pour tout. Ce que ça veut nous dire, ça veut nous dire, il y a premièrement qu'il y a toutes ces séquences qui nous sont citées, nous devons nous attendre à ce que nous les voyons. Les séquences de haine, de divorce, de mariage, voilà. Il faut s'attendre à voir tout ça parce que nous sommes sur une terre de péché. Il faut s'y attendre. Et deuxièmement, le langage « il y a un temps pour tout » veut dire aussi que Dieu a réservé un temps pour chacune de ces choses-là. Ça veut dire qu'il est au contrôle. Il peut aussi éteindre ce temps-là. Il est au contrôle. Il a réservé un temps pour tout ça. C'est censé nous amener de la déstabilisation à un certain calme où nous nous disons « ben Dieu sait ce qu'il se passe. Il est au contrôle. Il y a un temps pour tout cela. Aujourd'hui, c'est ce que je vis. Mais demain, ça sera un autre temps. Dieu, dans tous les cas, rendra les choses favorables à ceux qui l'aiment. C'est important puisque il y a toujours des courageux, il y a toujours des costauds pour commencer à prétendre que Dieu autorise de tuer, Dieu autorise d'haïr, Dieu autorise de détruire. Non, il nous est présenté toutes les séquences de la vie terrestre à nous de nous confier en Dieu pour tout, à nous de nous attendre à Dieu, à nous, malgré les chocs et les douleurs, d'être apaisé par le fait que Dieu est au contrôle quand même, malgré tout. Et si Dieu te contrôle, les choses sont laissées pour un bien futur. Voilà ce que nous devons nous dire. Oui, question ? Non, il n'y a pas de question. Ok, nous passons au verset suivant.
Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin.
Du commencement jusqu'à la fin. Nous revenons au sujet de ce livre. L'homme ne peut pas saisir les choses du commencement jusqu'à la fin. Nous avions dit ça en résumé le premier jour, que il n'y a pas de connaissance claire et nette des choses. Dieu ne nous a pas fait don d'une connaissance claire et nette des choses. Il n'y a pas de satisfaction claire et nette. Il n'y a pas de maîtrise des choses. Il n'y a pas la maîtrise. L'homme n'a pas la maîtrise. L'homme n'a pas la satisfaction maîtrisée. Il n'a pas non plus la connaissance maîtrisée. Les choses lui échappent. Je vais répéter encore notre conseil et le conseil de Salomon à la fin. C'est juste suivre Dieu. Vivre par Dieu, je crois que c'est même la pensée du jour d'aujourd'hui ou d'hier. C'est juste suivre Dieu, vivre dans Dieu au lieu de chercher à tout comprendre. Notre ancêtre Adam a voulu tout comprendre alors qu'il fallait juste manger des fruits qui étaient à sa disposition. Vous voyez, c'est vraiment bête, quoi. Voilà. Il y avait des beaux fruits partout. L'univers lui était donné comme en charge. Mais non, lui, il a voulu savoir, mais qu'est-ce qui se cache derrière tel arbre? Mais non, mais toi, comprends tout simplement que tu dois vivre de Dieu, c'est tout. Comprends que tu dois vivre de Dieu. La grâce est là, il y a de l'eau, il y a les fruits, il y a ce qu'il faut. Je vis. Mais l'homme dit, maintenant, mais qu'est-ce qui se cache derrière autre chose? Il veut maîtriser la situation, il veut maîtriser les choses. Et l'Ecclésiaste est là pour nous dire, écoutez, j'ai vécu plus que vous. Quand je dis j'ai vécu, quand je dis il a vécu, c'est dans le sens où il a goûté à tout. plus que nous tous réunis. Il a été riche, il a bâti, il a fait des choses. Mais il dit, mais tout ça, c'est vanité. Parce que je n'ai pas pu maîtriser la satisfaction. Je n'ai pas pu maîtriser la connaissance. Et même, vous voyez, vous travaillez, et c'est ce qu'il est, il dit là, il dit, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Il dit, vous travaillez, mais ça ne vous permettra pas de maîtriser le bonheur. On a vu des gens dépités lorsque Moulinex avait été fermé dans une région, des gens qui vous disaient, mais ça fait 25 ans que j'y travaille, c'est ma vie. Mais ils pensaient que son CDI était un CDE, contrat à durée éternelle, mais non, ça s'est révélé être un contrat à durée limitée. Même si à l'origine on a dit contrat à durée indéterminée, mais ce jour-là ils ont compris que l'indéterminé de l'homme n'est pas vrai. L'homme ne peut pas maîtriser l'infini. Nous avions dit même le chiffre zéro n'est qu'une illusion, puisque dans zéro il y a des choses. Ce qui est absent, nous ne savons pas ce qui est absent. C'est ça la réalité de ce livre. Ce livre nous ramène à réaliser la vanité de la terre. Sincèrement, bon, nous sommes des humains, mais après un tel livre, si quelqu'un s'accroche encore à la terre, il est fort. Il est faux, puisque ce livre est écrit par quelqu'un qui a eu plus de richesses, plus de plaisir, plus de tout que je dirais même chaque humain sur terre. Il a été, voilà, nous connaissons, il est arrivé même à 1000 épouses, 1000 partenaires. Il est arrivé, il a fait des jardins, il a fait des casernes. Il a fait des écuries. Il avait tout ça. Nous connaissons le bois qu'on lui ramenait du Liban. L'or qu'on lui ramenait. Il y a des textes, quand nous avons étudié les livres des rois, nous avons vu tout ce qu'il recevait comme or, argent, bois, pierres précieuses, tout ça. La visite des gens qui venaient. En fait, il avait aussi la popularité. Il n'avait pas que les richesses. Il n'avait pas que fait des constructions. Mais il avait aussi la popularité. Mais qui peut se vanter d'avoir été comme Salomon. Même Jésus le cite en comparaison à la beauté des fleurs. Il dit, ces fleurs-là sont mieux habillées que Salomon du temps de sa gloire. Donc, même Jésus reconnaît que quand Salomon était au sommet de sa gloire, il avait une richesse incomparable, des vêtements incomparables. Tout était incomparable chez lui. Il avait une popularité, une sagesse incomparable encore. Mais c'est celui-là qui nous dit, ben écoutez, il n'y a aucun avantage à tout cela, parce qu'on ne maîtrise pas ça. Ça nous échappe. Le contrat à durée indéterminée n'est pas en réalité indéterminé. L'argent qui est dans ton compte est fictif en réalité. C'est ce que Salomon veut dire. Il suffit d'un incident pour réduire ça à néant. Les gens qui se sont retrouvés dans la rue, je crois que ceux qui ont un certain âge ont connu l'époque de 2008, 2009, la crise de subprime aux États-Unis, où les gens se sont retrouvés dans la rue parce que les intérêts ont brutalement changé, le taux d'intérêt ont brutalement changé et les gens ne pouvaient plus rembourser au rythme des banques. Et les banques ont récupéré toutes les maisons et ces gens-là, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés dans la rue et d'autres se sont suicidés. Alors que une semaine avant, un mois avant, six mois avant, ils pensaient être très bien. Salomon nous dit, mais quelle est la peine? La peine, il y aurait une satisfaction si après le travail, tu maîtrisais tout. Il dit, mais tu ne maîtrises rien. Ben, pourquoi toute cette peine? Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas travailler, c'est juste pour dire que tu ne dois pas te reposer sur ton travail comme source de bonheur, comme force, comme situation maîtrisée. Ce n'est pas maîtrisé. Il faut se réfugier auprès de celui qui maîtrise tout, Dieu. Voilà le conseil de ce livre. Rien n'est maîtrisé. Voilà. Et au verset 10, il dit, voilà, j'ai vu à quelle occupation Dieu sommet les hommes, donc les hommes, les fils de l'homme, ils sont dans ces occupations-là, mais ils se fatiguent, ils maîtrisent rien du tout. Et pourquoi? Parce qu'au verset 11, la raison est donnée au verset 11, il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Salomon dit, Dieu lui-même fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toi, tu cherches à déterminer ton temps en toi, mais c'est Dieu qui décide. Et d'autres versets le disent, hein. L'homme fait des projets, mais c'est l'Éternel qui accomplit les choses. Lui, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et toi, tu t'agites en faisant beaucoup de travail, beaucoup de choses. Finalement, c'est ce que Dieu a prévu qui s'accomplit. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Pourquoi toute cette peine? Donc finalement, ça vraiment veut dire que tout ce que même lui, il a fait, c'était Dieu qui faisait toutes choses bonnes en son temps. Et qu'il ne fallait pas s'agiter. Pensant que tu maîtrises ton avenir. Non, il faut juste être à l'écoute de la voix de Dieu. Et comme un enfant, le suivre. Comme un agneau, comme un mouton qui suit son berger. Tout simplement, tu y gagnerais par rapport à la dépression, par rapport aux soucis, par rapport au fait de manquer de paix. Tu gagneras en suivant tout simplement la volonté de Dieu. Il veut que tu travailles, tu travailles. Il veut que tu fasses, tu fais. Il veut que tu donnes, tu donnes. Il veut que tu ne donnes pas, tu ne donnes pas. Au fait, tu le suis tout simplement. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais alors que nous, nous agitons. Maintenant, il dit, toujours dans ce verset 11, qui est très riche, il dit, mais le problème, c'est que il a mis la pensée de l'éternité dans l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire seulement qu'il a mis une puissance qui relie l'homme à l'éternité, de sorte que l'homme sent qu'il y a une éternité. Voilà. L'homme, en lui, il sent qu'il y a une éternité. C'est pourquoi il s'accroche à la vie. Hein, vous voyez, donc on appelle ça instinct de survie. Pourquoi l'homme refuse de mourir? Cet instinct-là, c'est dû au fait qu'il y a la pensée de l'éternité. Il se sent éternel, c'est ce que ça veut dire. L'homme se sent éternel, c'est pourquoi il y a cet instinct de survie qui fait que même quelqu'un de faible face à la mort peut manifester une puissance phénoménale. Parce qu'il refuse la mort, parce qu'en nous, il y a la pensée d'éternité. C'est ça qui fait que nous pleurons tant lorsque quelqu'un meurt. Parce que nous sommes choqués à chaque fois qu'il y a la mort. La mort nous choque parce que nous avons la pensée d'éternité. Sinon, la mort ne nous choquerait pas. Ça nous choque. Parce que nous savons que nous sommes éternels. Au fond de nous. C'est pourquoi la mort fait tant de problèmes. Mais il n'y a pas que ça. Quand il dit qu'il a mis, puisqu'il relie ça aux activités, au fait, l'éternité, c'est aussi l'infinité. Dieu a mis la sensation d'infinité dans tout homme. C'est pourquoi nous faisons tout pour que les choses soient, ne s'arrêtent jamais. Lorsque nous travaillons pour gagner beaucoup d'argent, le but caché de tout ça, c'est avoir une belle situation qui ne changera pas. Le but de tout ça, c'est amasser suffisamment, avoir une bonne retraite, avoir une maison déjà que tu as construite, avoir un compte bancaire bien, parce qu'il y a des comptes bancaires et il y a des comptes bloqués, il y a des assurances vie. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est avoir un avenir qui soit toujours agréable sans que cela ne s'arrête. Voilà, donc on prévoit les choses d'une manière infinie. On veut que ça soit infini. On ne veut pas que ça s'arrête. Ça, c'est la difficulté que Dieu a placée en nous. Est-ce que c'est une difficulté? Mais c'est plutôt la réalité. Ça dérange. Parce que, finalement, nous évertuons à rendre les choses infinies, mais la santé va te rattraper. Du coup, déception. Le divorce va te rattraper. Malgré les chants que tu as composés pour lui ou pour elle, malgré les cadeaux que tu as faits, malgré ceci, cela, pour essayer de rendre votre histoire éternelle, infinie plutôt, eh bien, il y aura quelque chose qui va venir empêcher cela. Il va y avoir la maladie, il va y avoir la mésentente, il va y avoir ceci, cela. Et donc il dit, mais toute cette peine-là, pourquoi? Voilà, c'est ce que Dieu, il dit, Dieu fatigue les hommes avec ça. Au fait, le fait qu'il leur a, il a placé en eux la sensation d'infinité, d'éternité, ça fatigue l'homme parce qu'il échoue tout le temps. Et finalement, en voulant rendre les choses éternelles ou infinies, par lui-même, il échoue. Et il va essayer de recommencer avec une autre femme. Il va échouer encore. Il va essayer de recommencer avec un autre métier pour essayer de maîtriser la vie. Il va échouer encore. Et ainsi de suite. Mais dans le milieu scientifique, combien n'y a-t-il pas de découvertes qui remplacent les anciennes, qui corrigent les anciennes? Donc finalement, l'homme échoue toujours. Vouloir maîtriser les choses l'amène toujours à l'échec. L'infinité, l'éternité est un fardeau pour l'homme. Et Dieu se moque et dit, ben voilà, tu ne peux pas résoudre ce problème-là d'infinité et d'éternité par ton travail. Ton travail est vain. Viens te raccrocher tout simplement. Vous savez, un wagon, c'est simple. On l'accroche à une locomotive et il se laisse conduire, c'est tout. Dieu dit, raccroche-toi juste à ma locomotive éternelle, infinie, c'est tout. Tu seras tranquille, mais toi tu te fais de la peine. Mais le problème c'est que la logique d'éternité et d'infinité va à chaque fois casser tout le travail que tu mènes. Ça va. Puisque tu seras toujours insatisfait. Tu seras, puisque l'infini, l'infinité va, ça va t'empêcher d'entrer dans le vrai bonheur. Parce que tu vas chercher à faire durer les choses. Bien aimé, combien de fois j'ai essayé de faire durer un après-midi ensoleillé? Ben non, ça passe. Quand ça commence à 14 heures là, vous avez l'impression que c'est fini. Nous ne mourrons plus. Le chaud, barbecue là, un petit t-shirt très très blanc, tu mets ça, ou bleu ciel, vous êtes là tranquille, il y a les sourires, le soleil ça donne le sourire, hein. Tout le monde sourit, on fait la salade là-bas, mais à un moment donné, l'obscurité commence à pointer, découragement. Comment rendre tout cela infini? Ben, s'accrocher au wagon de l'infini, Dieu lui-même. Plutôt à la locomotive de l'infini, de l'éternité, c'est Dieu lui-même. C'est ça ce que veut nous dire ce passage, c'est que quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Il ne peut pas régler le problème de l'infinité. J'ai vu à quelle occupation ça fait de l'occupation. Il bosse, il travaille, il fait de toutes sortes de comptes bancaires, mais vous savez, ça ne règle pas le problème. Il y a un moment donné, il est bloqué. Alors que, tout simplement, verset 11, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ce qu'il fait maintenant, utilise ça et reste accroché à lui. Ne pense pas maîtriser, ça ne marchera pas. C'est de l'occupation vaine. Et voilà. Et puis, il dit, ben, la difficulté, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir. Donc, l'homme ne peut pas tout saisir, mais il sait que ça doit être éternel, ça doit être infini, mais il arrive à maîtriser la situation. C'est ça qui fait la différence entre Dieu et l'homme. Un tel passage devait nous conduire à capituler, à dire, ben c'est bon. J'arrête de m'agiter, je m'accroche à Dieu, c'est tout. Je suis qu'un wagon. J'arrête de jouer à la locomotive. Je redeviens wagon, voilà, c'est tout, et je le suis. Un point, c'est tout.
Il y a des questions internet. Est-ce que le verset 11 nous encourage à nous humilier sous la puissante main de Dieu et lui décharger tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous?
Voilà, c'est ça. Donc il fait chaque chose bonne en son temps, on se décharge, c'est lui, sur lui, c'est tout. Il fera chaque bonne chose en son temps. Donc nous, on n'a qu'à discerner. Il dit, va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. C'est, le wagon, c'est ce qu'il fait. La locomotive va à gauche, il va à gauche. Le wagon ne discute pas. Dès que tu commences à discuter, tu as oublié Ecclésiaste. Revenons à Ecclésiaste. Soyons, tu vas entrer dans une occupation vaine. Voilà, nous continuons.
Il y a encore des questions. La pensée de l'éternité ne signifie donc pas Dieu a mis dans l'être humain la réalité de l'existence de Dieu.
La réalité de l'existence de Dieu, ce n'est pas que ça. Il y a un peu de ça. Il a mis ça dans tout humain. Mais là, c'est vraiment la sensation personnelle d'être éternel. Voilà, il a mis ça. Au fait, le goût de l'éternité. L'homme a le goût de l'infini et de l'éternité. Il fait tout pour que ça dure à jamais. Mais ça marche pas. Donc parce qu'il a ce goût-là que Dieu a placé en lui, le goût de l'infini et de l'éternité, bien sûr, et de Dieu, puisque c'est Dieu l'absolu. Il a mis ça dans, il y a tout cet ensemble-là relié à l'éternité. C'est pourquoi j'ai rajouté l'infini. Parce que l'éternité, les gens risquent de se limiter au côté vivre éternellement. Non, il n'y a pas que ça. Il y a le fait que les choses aussi ne s'arrêtent pas. Voilà. Donc, je mange, que ce soit bon, sans que ça s'arrête. Voilà. Je suis en bonne santé. Il faut jamais que je sois en mauvaise santé. Il faut que ma bonne santé ne s'arrête pas. C'est le côté infini. L'homme est en quête de quelque chose qui ne s'arrêterait pas et qui soit bon.
Peut-on comprendre la pensée de l'éternité comme étant la connaissance profonde du bien et du mal ou comme la crainte de la fin de vie?
C'est le refus de la fin des choses. Voilà. Pas le bien et le mal. Au fait, c'est une bonne chose, ça, parce qu'alors que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu n'avait pas voulu que l'homme touche à cet arbre. Mais en ce qui concerne l'arbre de vie, il n'y avait pas de problème. Donc l'arbre de l'éternité, il n'y avait pas de problème. Quand est-ce qu'il a empêché qu'il touche à l'arbre de vie, à l'arbre, c'est lorsqu'il a péché. Parce que s'il retouchait à l'arbre de vie, ben il serait mauvais éternellement. Donc Dieu a empêché pour qu'il permette qu'il y ait la mort et que la mort permette une nouvelle vie. Voilà, c'est cela. Mais c'est le côté que les choses ne s'arrêtent pas. Il a mis, donc nous savons, au fait, au fond de nous, nous savons que le monde normal devait être un monde où les bonnes choses ne s'arrêtent pas. Voilà, c'est au fond de nous. Mais nous voulons bâtir ça par nous-mêmes. C'est l'occupation difficile que Dieu nous laisse, dans laquelle il nous laisse. Allez-y, voilà. Bâtissez ça par vous-même. Vous allez vous fatiguer. Voilà. Et il veut qu'on se raccroche à lui pour vivre cela, chaque chose bonne en son temps.
Pasteur, c'est l'instinct de survie face au système et non vis-à-vis de Dieu. La réalité du quotidien est pesante. En fait, tout à l'heure, tu avais parlé de l'instinct de survie. Et donc l'internaute dit, l'instinct de survie là, c'est face au système et non vis-à-vis de Dieu. La réalité du quotidien est tellement pesante que...
Je ne comprends toujours pas, mais nous ne parlons pas de l'instinct de survie vis-à-vis de Dieu. Nous parlions de l'instinct de survie dans l'être humain naturel. Voilà, donc l'homme ne veut pas mourir, on parlait de ça. Voilà.
Est-ce qu'un chrétien qui s'agite constamment gêne le travail du Saint-Esprit?
Bien
car
sûr.
Il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit.
Il n'y a pas que ça. Donc, il y a ce qu'on vient de lire là. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne faut pas s'agiter. Dieu s'occupe de tout.
De même, est-ce que l'agitation l'affaiblit spirituellement si on s'en réfère à Ésaïe 30:15?
Oui, mais oui. Les réponses sont
D'accord.
En fait, il y a les réponses en même temps à la question.
Oui. Le problème relève alors de ne pas savoir discerner la voix de Dieu. On va à gauche, on va à droite. Comment être sûr, pasteur? Le Seigneur ne parle pas toujours distinctement.
Ah, toujours distinctement. Si nous ne l'entendons pas, c'est que nous ne voulons pas. Quand il parle, nous ne voulons pas écouter ça. Mais il parle distinctement. Bien aimé, je reviens toujours. Entre moi, entre l'un d'entre nous et Dieu, qui est le plus bon? C'est Dieu. Moi, je vois mal, j'appelle Patrick en faisant Patrick. Non. Je vais faire Patrick pour que tu entendes. Je ne vais pas faire Patrick. Donc quand Dieu, qui est bon, plus bon que moi, veut te dire quelque chose, il va parler plus faiblement que moi. Non, bien-aimé, c'est juste que quand il parle, Job 33, c'est le dit, non, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. C'est-à-dire que l'homme n'apprécie pas la parole de Dieu. Voilà, l'homme, quand j'ai dit l'homme, nous tous, voilà, c'est tout. Mais Dieu ne peut pas ne pas parler clairement. C'est juste que nous n'apprécions pas certaines de ces phrases et c'est comme si nous n'entendons pas. Voilà. Oui, Ginette.
Bon, ça a été un peu répondu, pas mal, avec tout ce qui a été dit. Donc, est-ce que quelqu'un qui a envie de construire pour préserver ou faire durer, est-ce que c'est un péché?
J'ai pas compris
comme
la question.
Tous les exemples que tu as donnés, il me semble que c'est quelqu'un qui va vouloir construire une maison ou, je sais pas moi, faire des projets, tout ça. Comme tu as expliqué.
Pour maîtriser l'avenir, c'est vrai. Mais pour participer à chaque chose bonne en son temps, pas de problème. Tu dis que Dieu, je suis ton fils, j'aimerais bien avoir une bonne maison. Voilà. C'est un don de Dieu. On va y arriver de toute façon à ce que tu dis là. Quand c'est un don de Dieu, pas de problème. Mais si tu le prends dans le sens que tu vas maîtriser, maintenant c'est bon, j'ai réglé le problème de la maison. Donc, il ne reste plus que le problème que les enfants finissent l'université. C'est comme si après ça, tout est maîtrisé. Eh ben, voilà. Dès que la maison finit, ben, il y a un tremblement de terre qui vient tout détruire. Voilà. Dieu va te montrer que ben, tout ça n'a été que vain. Ben, en réalité, c'est moi. Il faut, si tu veux une maison, ben, toute chose bonne en son temps, je te donne au bon moment, c'est tout. Pourquoi, voilà. Pourquoi faire les choses comme si tu voulais maîtriser ton avenir? Personne ne peut le faire. Ok. Nous continuons.
Verset 12. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et joue du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu.
C'est là un don de Dieu. En fait, j'ai répondu, voilà. Donc, c'était ça le verset qui répondait à ce que tu dis. Si tu prends ta maison comme un don de Dieu, t'es bien. Mais si tu le prends comme ta construction d'une forme d'infini bonheur, tu te trompes. Dieu te montrera que ça t'échappe. Mais si tu prends ça aujourd'hui comme un don de Dieu, la bonne nourriture comme un don de Dieu, t'es tranquille. Moi, les chrétiens vivent des situations où ils n'ont même parfois pas demandé quelque chose. Mais ils en ont besoin et Dieu vient leur donner. C'est ça, il fait toutes choses bonnes en son temps. J'encourage à demander, hein, mais je veux dire que tellement Dieu s'occupe de nous, parfois même quand nous oublions de demander, nous négligeons parce que nous pensons que c'est quelque chose que tu dois acheter avec ton argent. Alors que Dieu est tout puissant, il peut te, voilà, argent ou pas, il peut te donner ce que ton cœur désire. Voilà. Et comme certaines choses s'achètent par l'argent, nous pensons plus à l'argent qu'à Dieu, lui demander ça à Dieu. Tu as faim, tu te dis, ah ben oui, il faut que je descende, aller au McDo. Mais il suffisait de dire, ah Seigneur, j'ai faim. Ben, ça peut finir par ce que tu ailles là-bas, mais ça peut finir aussi par un coup de fil. Attends, ben, je vais passer dans le coin, je t'amène quelque chose. Voilà. Donc, c'est cela. Tout doit être conçu comme étant le don de Dieu, et tu en jouis, tu es heureux. Mais si tu veux bâtir une sorte de constante éternelle de bonheur, tu te trompes, ça ne marchera pas. Voilà. Et on continue.
J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne.
Amen, amen. Tout ce que Dieu fait, ça dure toujours. Donc autant être dans un wagon, tu te raccroches à l'action divine. Et donc du coup, notre instant présent fait partie des réalisations que Dieu fait. Ça dure, c'est une construction éternelle. Voilà. Si nous prenons nos instants présents comme des briques de construction éternelle, eh bien ça durera toujours. dans cet élan-là, dans ce wagon-là que tu es, ça continuera. Mais si tu veux quelque part construire ta vie toi-même, eh bien, Dieu te montrera que ça va mourir, ça va se consumer, peu importe ce que tu penses avoir construit. Et nous vivons ça de plusieurs manières. Tous les jours, nous voyons des champions tomber dans leur discipline. Tous les jours, nous apprenons qu'un président est mort. Nous apprenons qu'une grande star est morte. Tous les jours, nous voyons combien les vies bâties par l'homme périssent. Nous vivons ça. Mais nous nous en rappelons pas. Ecclésiaste est là pour nous dire, mais vous vivez ça tous les jours, que les vies bâties s'éclipsent. Mais ce que Dieu lui fait, ça dure à jamais. C'est une construction éternelle. Voilà, c'est ça. Oui.
Que se passe-t-il si je fais une promesse à Dieu de le servir quand je suis dans une situation très compliquée et que quand tout va bien, j'oublie cette promesse et je reprends ma vie ancienne?
Eh bien, Dieu te mettra des bâtons dans les roues jusqu'à ce que tu penses à ce que tu avais fait comme engagement. Je crois que c'est Proverbe 20-25, hein? On va vérifier. Proverbe 20-25.
Proverbe 20-25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu.
Voilà. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. Tu prends un engagement, ah mais moi je te servirai. Eh bien, c'est un piège. En fait, pourquoi on dit que c'est un piège? Parce que lui, Dieu ne va pas oublier. En toi, en prenant cet engagement, eh bien, tu es lié par cet engagement-là devant Dieu. Et du coup, c'est un piège dans le sens où lui, il te tient par cet engagement-là. Il te réclamera cet engagement-là d'une manière ou d'une autre. Autrement, ton avenir s'obscurcira, hein, donc d'une manière ou d'une autre, il faut revenir à cet engagement-là. J'ai l'anecdote que nous avait qu'a raconté un pasteur dans son livre. Il dit qu'une fois, il était dans une réunion de prière, invité par une église, et à un moment donné, il priait pour les gens, et une personne s'était avancée, et ayant une maladie incurable, alors le pasteur lui a dit, mais... ta maladie est due au fait que tu n'as pas honoré ta promesse, la promesse que tu avais faite à Dieu. Et cet homme qui se considérait comme païen, il s'est dit, mais moi j'ai pas de relation avec Dieu, monsieur. Là vous vous trompez. J'ai pas fait de promesse à Dieu puisque je ne suis pas chrétien. Vous savez. Le serviteur de Dieu a sorti la parole qui venait dans son cœur. Voilà. C'est ça, ok, c'est que c'est pas facile, hein, de prophétiser, hein. Parfois, tu dis quelque chose, la personne dit non, c'est pas ça. Mais toi, c'est ce que tu as reçu. Mais il faut avoir le courage de dire quand même. Voilà. Et, quand ce monsieur retourne chez lui, c'est là que là, le souvenir revient. Quand il était jeune, un jour, il s'était retrouvé avec d'autres personnes dans une rivière ou une piscine en train de nager. Et il était en train de se noyer. Et il avait crié, je crois que c'était une rivière, il avait dit, Dieu, si tu me sauves, je te servirai. Il a été sauvé par miracle. L'instant d'après, il avait déjà oublié. Il a continué sa vie. Il était païen, mais vous savez, nous revenons à l'instinct de survie. Au moment de mourir, eh bien... les gens pensent à Dieu en ce moment-là. Et il y en a qui pensent à Dieu. Et en général, tous pensent à Dieu. Il y a des gens qui vont commencer à dire, mon Dieu, mais toi tu es païen, athée, pourquoi tu dis mon Dieu? Voilà. Donc c'est déjà cette exclamation-là, cela montre qu'en cas de danger, les gens pensent à Dieu. Et là, il a crié, il a dit, si tu me sauves, je te servirai. Tout de suite après, il retourne dans sa vie païenne. Et c'est là que cette maladie incurable le saisit jusqu'à ce qu'il vienne ce jour-là à la réunion. Et Et il a nié, il a dit, mais non, moi je n'ai jamais rien promis à Dieu. En fait, il avait oublié. Et le Saint-Esprit lui a rappelé ça. Il est revenu voir le pasteur après qui a prié pour lui. Il a été guéri. Il s'est engagé à maintenant à servir réellement le Seigneur. Voilà, c'est cela. Il faut être sérieux quand nous nous engageons. Ou bien dire aussi, si on sent qu'on avait fait les choses dans la folie, dire « Seigneur, pardonne-moi, je me suis engagé précipitamment. Voilà, je veux reformuler les choses avec toi. »
Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté.
Et pardon, je crois qu'on avait déjà lu ce genre de passage dans les deux chapitres précédents. Là, ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. C'est pour nous dire quoi? Tu n'es pas extraordinaire. Il y a des moments où quelqu'un, un pasteur, il se croit extraordinaire. Mais Dieu lui dira, attention, il y a eu Paul, hein, calme-toi. Dieu va te dire, attention, il y a eu Jean. Donc calme-toi, il y a des gens qui peuvent se croire chanteurs extraordinaires. Dieu va te dire, ben non, il y a eu, même dans le monde. Vous savez, les gens, je l'ai souvent dit par rapport au football, les gens, les jeunes d'aujourd'hui, ont l'impression que les joueurs qu'eux connaissent, c'est les meilleurs de tous les temps. Mais non, mais les anciens vous diront, mais non, il y a quelqu'un qui faisait mieux que ça. Donc, c'est pour nous dire, ce que tu fais là, ce que tu es, il y a déjà eu quelqu'un qui a été ça. Peut-être en mieux, sois calme. Sois calme, tu ne connais pas le passé. Voilà. Soyons calmes. Et d'ailleurs, Dieu, pour se moquer de nous, il nous fait voir les choses qui existaient parfois avant, surtout dans la mode. Ça revient encore. Mais oui, mais ça existait déjà. Voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Et les constructions extraordinaires sont... le témoignage de cela, les pyramides, que ce soit en Égypte, que ce soit en Amérique. Il n'y a pas que les pyramides en Égypte. Hein. Il y a des pyramides en Égypte, il y en a en Amérique, il y en a... même en Europe, parfois, on en découvre. Dans les pays comme la Croatie, les pays de l'Est, on découvre des pyramides extraordinaires. Il y a des... un morceau de pierre que nous voyons quand nous allons à Jérusalem qui sous-tend la muraille. Mais ce morceau-là, vous vous demandez, même avec les matériels aujourd'hui, comment on pouvait déplacer un tel morceau? On peut déplacer un tel morceau? C'est tellement grand et lourd, mais comment ils ont pu déplacer ça? Il est entier, le morceau. Voilà, vous voyez la forme que c'est entier. Mais comment les gens de l'époque l'ont déplacé? Donc Dieu veut nous dire, l'intelligence a déjà existé, a toujours existé. L'homme a toujours été intelligent. C'est pas vous qui commencez avec l'intelligence. L'homme l'a toujours été. Voilà, oui.
Utilisez le psaume 118, verset 17, je vais lire. « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Est-ce que c'est faire une promesse ou juste une simple prière? « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. »
Il y a un sous-entendu dans ce 118, 17 que nous partageons, hein, aux gens qui s'inquiètent. Hein. Nous leur donnons ce verset-là. C'est dans le sens à dire que ce n'est pas Satan qui va m'achever. Ce ne sont pas les humains qui vont m'achever. Le plan des humains ou des démons de m'éliminer ne réussiront pas. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais si c'est la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Donc il y a un sous-entendu dans le psaume 118, verset 17. C'est pourquoi il faut lire tout le contexte. Voilà. Le sous-entendu, c'est que ce n'est pas les ennemis qui vont m'achever. Ce n'est pas l'adversaire qui va m'achever. Si la menace vient de là-bas, ben je ne mourrai pas. Voilà. Mais je vivrai. On continue.
Verset 17. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre.
Voilà, beaucoup de chrétiens, même parfois, il y en a qui ont quitté le christianisme à cause de ça, en disant, mais voilà le verset 16, quoi. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. C'est-à-dire que l'endroit même, au tribunal, tu vas pour recevoir la justice, mais tu trouves l'injustice. Dans l'église, tu viens pour chercher la justice, la vérité, tu trouves la fausseté. Et les gens sont parfois désemparés pour dire, mais comment Dieu peut laisser faire de telles choses? Des parents qui tuent leurs enfants. Des parents, hein, comme dernièrement une dame est partie faire quelques jours aux Antilles et a laissé son fils de 13 ans sans nourriture à la maison. Comment Dieu peut laisser de telles méchancetés là où, donc, dans une maman, c'est là où on doit trouver l'amour, mais on trouve la méchanceté. Mais Salomon dit, attention, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour cela, mais il y a un temps aussi pour le verset 17. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant. Dieu va juger tout cela. Il y a un temps pour tout. Ne nous précipitons pas à accuser Dieu et à nous retirer. Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps de jugement. Faisons toujours confiance en Dieu que tout est maîtrisé. Comme il a dit au début de ce chapitre, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où nous subirons les injustices, où nous les verrons, où nous serons choqués. Même chez les animaux, nous serons choqués. Mais il y a un temps où tout cela sera réparé. C'est un appel à faire confiance en Dieu. Il maîtrise toute situation, même les situations négatives. Voilà. Verset 18.
J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte et si le souffle de la bête descend dans la terre?
Voilà. Il y a des gens qui pourraient chercher à contredire Salomon pour dire « Amen ». Non, 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 non. Monsieur, tu te trompes parce que l'homme n'est pas quand même un animal. Parce que l'homme a une essence supérieure, il a été créé à l'image de Dieu. Et là, tu sembles dire que c'est pareil. Oui, c'est pareil dans l'observation terrestre. Salomon nous dit, regarde, observons d'une manière terrestre, d'une manière humaine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le même processus de vieillissement qui tue l'homme, c'est le même processus qui tue l'animal. Ils meurent tous pareil. De vieillissement, d'accident, de meurtre. C'est le même processus. Donc, quelle est la supériorité de l'homme dans ce cas-là? Si nous devons nous en tenir au matériel, au côté matériel, il n'y a pas de supériorité de l'homme. Il n'est que finalement un animal. Donc, à quel moment il retrouve la supériorité? C'est dans sa connexion avec Dieu. Donc Salomon n'est pas en train de dire, parce qu'il y a un verset qui peut pousser à polémique. Qui sait si le souffle des fils de l'homme, verset 21, monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas? Alors que nous savons qu'avec par d'autres versets bibliques, nous savons bien que le souffle de l'homme monte en haut. Hein. Là, nous le savons, hein, puisque quand Jésus a dit de Jésus, il a rendu son esprit, donc le souffle monte. Nous le savons. Mais qu'est-ce que Salomon veut dire? Lorsque nous observons la mort des humains, nous ne voyons en rien que leur souffle monte en haut. Donc, nous ne voyons en rien qu'il y ait une différence entre la mort d'un animal et leur mort. Nous ne voyons pas cela. Mais Salomon est au courant que le souffle monte en haut. Nous le savons dans Ecclésiaste 12, 9. En plus, nous ne changeons même pas de livre. Hein, nous pouvons lire ça, Ecclésiaste 12:9. Nous ne changeons même pas de livre, nous sommes dans le même livre. Il va nous le dire que le souffle s'amonte. Mais là, il veut parler d'une observation humaine. Il dit, mais quand nous regardons, quand nous vivons, il veut nous parler de notre existence terrestre. La mort d'un animal est identique à la mort d'un humain. Donc, il n'y a rien qui, en apparence, nous montre que ben, là, quand il est mort, le souffle est monté en haut, alors que quand l'animal est mort, le souffle est descendu. Il n'y a rien qui nous montre cela. Mais il contredit pas la parole de Dieu. Nous lisons Ecclésiaste 12:9.
Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné.
Là, il parle de l'être humain. Quand l'être humain meurt, l'esprit monte. Donc l'esprit retourne à Dieu. Voilà. Donc c'est pas qu'il contredit la parole, parce que lui-même va dire, c'est lui-même qui écrit Ecclésiaste 12:9. Hein. Mais il veut nous dire, quand tu vis sur terre, quelle est la différence entre ta mort et celle d'un animal? Il n'y a aucune différence. D'ailleurs, même aujourd'hui, il y a des cimetières pour animaux. Il y a des gens qui font le deuil. Il y a même quelqu'un qui a fait le deuil de son crocodile qui était mort. Voilà. Donc, où est la différence? Il dit, c'est la même chose. Alors, pourquoi tu vas te vanter? C'est pourquoi le thème de ce livre, c'est quoi? Vanité des vanités. Tout est vanité, puisque mais quoi, tu n'es même pas supérieur à la fourmi, vous mourrez tous de la même manière. Voilà. Pourquoi tu veux te faire toi que tu es un homme supérieur? Pas du tout. Mais c'est quand tu es accroché à la locomotive divine, à là, tout prend son sens. Ta supériorité se manifeste maintenant. Voilà. Nous clôturons avec le verset 22.
Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui?
Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que ce que Dieu te donne, chaque moment, réjouis-toi de ça. Ne cherche pas à maîtriser l'ensemble. Aujourd'hui, par exemple, nous faisons cette étude biblique, réjouis-toi. Mais ne cherche pas à dire, bon, je vais caser ça dans telle place dans mon cerveau. Comme ça, à chaque fois que quelqu'un va m'embêter, je vais sortir cette étude biblique. Ne cherche pas à maîtriser tout ça. Réjouis-toi de maintenant. Ce que tu viens de vivre maintenant, réjouis-toi de cela. C'est ça ta part. C'est ça le cadeau de Dieu. Tu viens de bien peindre ta maison. Réjouis-toi de cette peinture en ce moment-là, de cette œuvre-là. C'est le don de Dieu. Prends l'instant présent comme le don de Dieu et ne t'intéresse pas à la maîtrise de l'ensemble. Voilà ce qu'il veut dire. C'est ça ta part. Ta part, c'est de prendre l'instant présent comme un cadeau de Dieu. Peu importe que tu y aies contribué ou pas, prends ça comme un cadeau de Dieu. Ne cherche pas à plus que cela, à maîtriser la suite. Non, l'instant présent, c'est ça ton cadeau. Amen. Voilà, donc soyons humbles et simples, quoi. Ça s'appelle à la simplicité et ça décourage les costauds, les hommes forts. Mais bon, nous les hommes faibles, ben, nous préférons ça. Comme ça, je ne suis qu'un wagon, ben, je suis, c'est tout. Voilà. Ceux qui veulent maîtriser, ben, ils sont découragés par l'Ecclésiaste. L'instant présent, voilà, c'est le don de Dieu. Oui, voilà, on va prier pour bénir le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ces instants présents où tu nous parles encore. C'est vrai que parfois, nous pouvons nous inquiéter de demain parce que nous ne nous sentons pas bien. Mais toi, tu nous dis, chaque instant présent, c'est ça ta part. Saisis-le. Prends-le et laisse le reste entre mes mains. Et nous voulons obéir à cette voie-là. Nous voulons comprendre que chaque chose vient en son temps, maîtrisée par toi, et que nous ne devions pas chercher à définir les temps et les circonstances. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique tout ce que nous avons reçu et que tout soit fait pour ta gloire dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.